Voilà, je ne vous explique pas les émotions. J'ai l'impression que c'est la première fois de ma vie que je vais prêcher. Mais je dois vous dire qu'effectivement, là, en début de semaine, alors que la ville de Chaux-de-Fonds était durement touchée, j'ai vécu aussi une espèce d'ouragan, parce que vers 4h30, comme ça, je voulais remettre mon verre de contact dans l'œil droit. Et puis, je me suis trompé de solution, j'ai mis celle pour le nettoyage. Et c'est hyper violent. Alors là, et en un instant, en une seconde, c'est un ouragan qui m'est tombé dessus, des éclairs, je ne voyais plus rien, je ne savais plus où j'étais. J'étais tellement surpris. Et puis, bien sûr, la première réaction, c'était d'enlever ce verre de contact, mais il était coincé sous la paupière, et je ne savais plus quoi faire. Puis je dis, je dois avoir une petite... ventouse, et je l'ai cherché, et heureusement je suis tombé assez vite dessus, j'ai réussi à l'enlever et tout, j'ai mis de l'eau, mais ça me brûlait, j'ai dit mais c'est pas possible. Alors je dis qu'est-ce qu'on fait, alors on téléphone à Lausanne, à l'hôpital ophtalmique, et puis oui, vous pouvez venir aux urgences, on arrive à 8h, on est ressorti à 11h. Et pendant 3 jours j'avais l'impression d'avoir un tesson de verre dans l'œil, et je voulais téléphoner à Florence, lui dire, écoute Florence, je suis désolé, mais je ne peux pas prêcher qu'avec un œil, hein, ça ne va pas. Et bien sûr, j'ai reçu des gouttes, toutes sortes, des antibiotiques, corticoïdes, je ne sais pas tout quoi. Et puis là, ce matin, ça va bien. Ça fait quand même une semaine maintenant, mais je vais quand même vous prêcher avec un œil seulement, donc j'espère que ça ira, parce que je commence à lire avec l'œil gauche. Je ne sais pas si je vais réussir à finir avec l'œil droit. Hein. Ça, c'est un problème. Mais voilà. Moi, j'ai été très fortement impacté aussi émotionnellement quand j'ai vu ce qui s'était passé ici à la Chaux-de-Fonds. En plus, donc, voilà. Puis maintenant, en plus, je suis au milieu de vous. Donc, c'est vrai que ça bouillonne à l'intérieur. Et j'espère que je vais pouvoir vous transmettre ce message. Ce d'autant plus que... Voilà, quand on se prépare pour prêcher dans une église, on se dit, mais quel message, quel thème, etc. Et puis là, j'étais conduit et vous verrez que ça tombe, je crois, pile avec ces événements qui se sont produits, parce que moi, je pense que ce qui s'est passé à la Chaux-de-Fonds n'est que le reflet de ce qui se passe dans beaucoup de vies. Ces espèces d'ouragans, ces tempêtes, ces situations, ces tornades, ces tsunamis, en fait, tout ce qui amène le chaos, en fait. Et on a l'impression qu'il y a une situation chaotique qui est en train de se manifester sur l'ensemble de ce monde, mais surtout dans la vie des gens. Et c'est impressionnant de voir comme des gens peuvent tout d'un coup basculer dans des situations d'horreur, comme moi je l'ai vécu, mais voilà, juste pour un homme. Pour d'autres, c'est des situations familiales, c'est des situations de couple, c'est toutes sortes de choses comme ça, de travail, etc. Donc, j'aimerais vous parler ce matin de l'action de Jésus, qui est une action extraordinaire quand on le laisse agir, parce que Jésus est venu en fait pour mettre de l'ordre dans le désordre. Et ça, ça fait du bien. Alors, j'aimerais lire avec vous en introduction... Jérémie 1, 18, 19, qui dit « Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte. » Et ça nous suis dit « Waouh, la ville est dévastée. » Et puis ce passage nous dit « Je t'établis. » Et quand Dieu établit quelqu'un, il l'établit. Ce n'est pas juste un travail temporaire hein, chez lui. Il nous établit comme une ville forte, une colonne de fer, un mur d'airain. Contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs, contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Et en Actes 10, 38, vous savez comment Dieu a déversé une onction de l'Esprit Saint et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en faisant le bien et en délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Parce que Dieu était avec lui. Amen. J'aimerais prier. Seigneur, merci parce que tu es ce Dieu qui parle en ce moment. Tu n'es pas un Dieu du passé, tu n'es pas encore ce Dieu de l'avenir, mais tu es ce Dieu du moment présent. Et tu sais que dans ces moments présents, dans chacune de nos vies, nous avons besoin d'une parole de ta part, comme un père parle à son fils. Et nous voulons te remercier parce que tu as des paroles de vie pour chacune et chacun d'entre nous, là où nous en sommes. Et je te prie, Seigneur, pour que ce message ce matin puisse édifier nos cœurs, puisse nous rendre forts en toi, des villes fortes. Tu veux nous établir, Seigneur, dans un monde qui est en train de s'écrouler de toutes parts, mais tu veux faire de nous des villes fortes. Et je te remercie, Seigneur Jésus, parce que tu es présent dans ces moments-là. Amen. On voit que l'essentiel du ministère de Jésus sur cette terre a consisté à remettre de l'ordre dans le désordre, à remettre les choses dans le bon sens, à mettre les choses à leur place. Il l'a fait tout au commencement, on peut mettre premier dia, il l'a fait tout au commencement déjà, alors que la parole de Dieu nous dit que la terre n'était que chaos et vide, c'est-à-dire tohu, bohu. Ça se dit toho. Informe, confusion, vide, lieu de chaos, bohu. Vide, informe, nu, nul, détruit. Mais par sa parole puissante, Dieu va créer un paradis, un lieu de vie agréable. Alors je vois que... hein? Ça vient. Prions. Bon, c'est pas le dia qui est important, hein? Mais enfin voilà. Donc, l'œuvre de Jésus dans notre vie, c'est de remettre les choses dans le bon ordre. Moi, je ne vous connais pas tous personnellement. Certains, oui, un peu mieux que d'autres. Mais je sais que seule l'œuvre de Jésus dans nos vies peut nous ramener à un bon ordre. Alors, j'aimerais tirer un parallèle entre ce que Jésus a fait et ce qu'il désire faire dans chacune de nos vies. Et un lieu particulier symbolise cette œuvre, c'est la ville de Capharnaüm. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé en Israël, mais je pense que tous ceux qui ont passé une fois en Israël se sont arrêtés à Capharnaüm, au bord du lac de Galilée. On peut mettre la seconde dia. Alors c'est vrai que Capharnaüm, c'était un lieu d'abord de passage. Vous aviez la Via Maris qui descendait depuis la Syrie et qui allait jusqu'en Égypte. Et les marchands passaient par Capharnaüm notamment. Il y avait à ce moment-là, environ du temps de Jésus, environ 1500 habitants et une bonne partie d'étrangers. C'est d'ailleurs intéressant de voir dans Matthieu 4,14, Matthieu reprend ce passage d'Ésaïe. Territoire de Zabulon et de Nephtali, route de la mer, région située de l'autre côté du Jourdain, Galilée à la population étrangère. Alors il y avait une espèce de foisonnement de vie hein, dans cette petite ville, fait de marchands, de commerçants, de cultivateurs, d'artisans, de pêcheurs et de ces gens qui traversaient la ville pour leurs affaires. Et c'est certainement une des raisons pour lesquelles, dans notre langage courant, on a gardé ce nom de Capharnaüm. Je pense que vous avez tous entendu parler de cette expression « mais quel Capharnaüm ! Quel désordre hein ! Quel désordre !» Peut-être en parlant de la chambre de votre ado, ou bien du bureau de votre mari, je ne sais pas, à vous de choisir. Donc c'est un synonyme de fousitou, comme on dit, hein, de bric-à-brac, de bazar, de chantier, de souk, de pagaille, etc. Il y a d'autres mots plus populaires, mais je ne vais pas les citer. Et peut-être que vous posez la question ce matin, pourquoi votre ado ou votre mari, peut-être, refuse de ranger le bazar qui est le sien? Comment est-ce qu'il peut dormir? Comment est-ce qu'il peut étudier? Comment est-ce qu'il peut se tenir dans cette chambre avec un tel Capharnaüm? Alors, ne vous torturez pas l'esprit, mesdames. La réponse se trouve dans les affres de leur cerveau. La directrice du département de neurologie à l'université de Pennsylvanie, aux USA, Frances Jensen, par ailleurs mère de deux garçons, fait mention d'une connectivité cérébrale à la traîne. Bon. Je peux vous donner les coordonnées du site si ça vous intéresse à la fin. Donc, revenons à notre histoire et lisons ce que Jésus a fait dans cette petite ville de Capernaum. Marc 1, 21 à 28. Ils se rendirent à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres « Mais qu'est-ce que ceci ? Une nouvelle doctrine ?» Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans les lieux environnants de la Galilée. Le soir, ça c'est au verset 32, « Le soir après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Jésus parcourt la Galilée. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. » Puis au chapitre 2, verset 1, toujours dans cette petite ville de Capernaum, quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Voilà l'histoire de Jésus dans cette petite cité. Et j'aimerais relever quatre caractéristiques qui ressortent de ce texte et les développer un peu avec vous. Le premier se trouve dans la synagogue. Le deuxième, c'est le monde spirituel. Le troisième, c'est la maladie. Et le quatrième, le monde religieux. Voilà ce que Jésus trouve en entrant dans cette ville. On y est ? Oh là là, on est toujours au tohu-bohu. Alors, voilà. Ah. Si tu avais pris les PDF, ça aurait été plus simple, parce que tu pouvais suivre, hop, un après l'autre. Ah, c'est le tohu-bohu, quoi. Voilà, donc la chambre de votre mari aussi, je sais pas. Bon, bref. On continue en priant pour que les choses avancent avec Lydia. Et à y regarder de plus près, nous allons constater que ces quatre domaines nous concernent parce qu'ils symbolisent des caractéristiques que nous trouvons dans notre vie. Et elles peuvent devenir des lieux de désordre et de chaos si elles ne sont pas contrôlées par la Seigneurie de Christ. On sait que malgré tous les progrès de l'humanité, tous ces progrès engendrés à travers les siècles, au niveau économique, scientifique, médical, force est de constater que les lieux de désordre abondent. Plus on avance, plus c'est le chaos, malgré tous ces progrès. Et on se demande, comme pour la chambre de nos enfants ou nos ados, comment tant de gens réussissent à vivre, étudier, dormir dans un tel chaos intérieur. Et vous savez qu'on doit dépenser beaucoup d'énergie, énormément d'énergie, dans le monde pour faire face à cette réalité. Je prends juste l'exemple de la France. Savez-vous qu'en France, les coûts sociaux dus aux addictions coûtent à la collectivité publique 120 milliards d'euros par année uniquement pour l'alcoolisme. 120 milliards d'euros. 122 milliards à cause du tabac. 9 milliards à cause des drogues illicites. En Suisse, on en est environ à 8 milliards. Mais on a un plus petit pays, bien sûr. Alors, c'est quoi le désordre ? On peut avancer ? Bien, toujours pas ? On ne peut pas avancer. Alors, on recule. C'est le 5. Qu'est-ce que le désordre ? Le désordre, c'est un lieu où les choses ne sont pas à leur place. Et ça engendre un manque de cohérence, ça provoque la confusion et ça entraîne des troubles et de l'agitation. Et Jésus veut mettre de l'ordre dans ce désordre. Capharnaüm signifie lieu de consolation, lieu de compassion, le village du consolateur. Et il va le faire dans un esprit de consolation et de compassion. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 1, verset 68, quand Zacharie, le père de Jean-Baptiste, animé de l'esprit, prophétise, il dit « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur. » Ce n'est pas seulement d'un sauveur que nous avons besoin, c'est d'un puissant sauveur. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Voilà ce que Jésus veut faire. Voilà ce que le puissant sauveur veut accomplir dans chacune de nos vies. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte. Alors, la synagogue. Dans le texte, il est dit que Jésus se dirige prioritairement vers la synagogue. Je ne sais pas si vous connaissez Francis Cabrel. Il a écrit un chant qui parle de Dieu. Et il dit que Dieu s'est assis sur le rebord du monde pour voir ce que les hommes en ont fait. Dommage, Francis, tu aurais pu faire un pas de plus et découvrir que ce Dieu qui peut-être s'est assis sur les rebords du monde est descendu à un moment donné. Au travers de Jésus, il est descendu dans ce monde. Il entra, nous dit le texte, Jésus entra d'abord. Il entre. Jésus ne veut pas rester en bordure de ta vie. Il veut entrer dans ton existence. Il veut entrer dans ta réalité. Il est descendu pour cela. J'aime bien l'histoire de Zachée, d'ailleurs, en Luc 19,5, parce que lorsque Jésus voit Zachée dans son arbre, là, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Jésus veut entrer chez Zachée. Il ne veut pas juste le saluer de loin, dire « Salut Zachée, t'es un brave gars ». Non, il a envie d'entrer dans sa réalité, d'entrer dans sa vie. Hébreux 10, 5, c'est pourquoi en entrant dans le monde, Christ dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps ». Donc, la synagogue symbolise le cœur. Elle est le cœur, elle est le centre de la cité, de la vie sociale, de la vie religieuse. C'est un lieu par excellence de la rencontre, là où des hommes ou des femmes se retrouvent pour partager, pour vivre ce que le psaume 133 nous dit, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Et qu'est-ce que Jésus trouve lorsqu'il rentre dans cette synagogue ? Un homme animé d'un esprit impur. J'aime bien Chouraki parce qu'il traduit un souffle contaminé. On sait ce qui est contaminé, hein ? Donc un esprit, c'est un souffle contaminé. Cet homme est habité par un souffle contaminé. Il l'influence, le domine, il provoque des désordres intérieurs, l'empêche de vivre une vie équilibrée, une relation joyeuse avec Dieu et ses semblables. Et là, personne pour le venir en secours. Personne pour lever le petit doigt dans cette synagogue. Le péché a provoqué un vide intérieur chez cet homme que des puissances spirituelles se sont empressées d'habiter. Jésus, le consolateur, le puissant sauveur, est là. Il prend autorité sur cet intrus, ce squatter spirituel, et lui ordonne de quitter les lieux. Il va libérer, soulager, réconforter cet homme accablé afin que ce cœur puisse à nouveau devenir une habitation de Dieu en esprit. 1 Corinthiens 3, 16. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Et dans Proverbe 23, 26, il dit « Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur, donne-moi ta synagogue, donne-moi le lieu central de ta vie. C'est là que je veux résider et que je veux régner. » Jésus veut mettre de l'ordre dans notre cœur. Il commence par notre cœur. C'est ce lieu central, ce lieu stratégique. Dans quel état est ta synagogue ce matin? Dans quel état est ton cœur ce matin? Qui l'habite? Les choses sont-elles dans le bon sens, dans le bon ordre, ou est-il confus, troublé, chaotique? C'est la première question qu'on peut se poser ce matin. Le deuxième point qu'on trouve, c'est le monde spirituel. On peut changer de dia. La venue et l'intervention de Jésus dans la synagogue fait tout d'un coup prendre conscience aux gens qui sont présents qu'il existe un monde spirituel. Un monde d'esprit invisible aux yeux de la chair, mais tout aussi réel que le monde visible qui nous entoure. Ils sont étonnés, stupéfaits, de voir Jésus accomplir une telle délivrance. Pour eux, cette manière de faire relève d'une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs. Alors on sait que dans ce temps-là, la pratique de l'exorciste était réservée à une élite, des spécialistes qui connaissaient les formules de conjuration. La plupart étaient membres du tribunal de rabbinique. Et Jésus va à ce moment-là révolutionner la pratique, dans le fond. Il va, entre guillemets, démocratiser, rendre accessible à celles et ceux qui croient en lui. Marc 16, 17, « En mon nom, ils chasseront les démons. » Matthieu 10, 1, « Il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs. » Luc 10, 17, « Les septante revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons nous sont soumis en ton nom. » Nous sommes responsable de notre atmosphère spirituelle. Nous sommes responsables de l'atmosphère spirituelle qui règne dans nos synagogues, dans nos cœurs. Jésus a fait de nous des collaborateurs, il nous a donné le pouvoir. Et c'est à nous, bien sûr, avec l'aide du Saint-Esprit, de remettre de l'ordre dans le désordre. Soit on reste dans notre Capharnaüm, soit on devient un temple saint dans le Seigneur. On progresse dans ces choses-là. On va de l'avant. Car, ne l'oublions pas, au-delà du tout accompli que Jésus a proclamé sur la croix, il est écrit dans Colossiens 2, 15, « C'est ainsi que Dieu a désarmé les autorités et pouvoirs spirituels. Il les a livrés publiquement en spectacle en les emmenant comme prisonniers dans le cortège triomphal de son Fils. » Donc en tant que croyant, en tant que fils de Dieu, fille de Dieu, nous devons être habités de cette réalité-là. C'est une réalité, Jésus a vaincu ce monde spirituel qui veut créer le chaos dans chacune de nos vies. Ça c'est le but avoué du monde spirituel en rébellion contre Dieu. Et c'est intéressant de voir que si vous remontez l'histoire biblique et que vous arrêtez dans Genèse au chapitre 15, verset 10, il est dit d'Abraham, prit tous ses animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Il ne partagea pas les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, mais Abraham les regarda passer. Les chassa. Déjà Abraham, il avait compris ce principe spirituel que ce qui est donné en sacrifice à Dieu, on doit le préserver. Et c'est à nous de le faire. C'est à nous d'intervenir dans ces moments-là. Alors je raconte une anecdote qui m'est arrivée il y a pas mal d'années, mais ça a marqué ma vie et ma vie pastorale aussi. On était à Fribourg, ça fait quand même quelques années que j'étais converti. Et une nuit, je fais des rêves impurs. Je me retrouve dans des situations, mon Dieu, mais ce n'est pas possible. Et même le corps réagit à ce genre de situation. Et le matin, je me réveille, je dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Mais pourquoi j'ai rêvé ça? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Oh, puis j'étais là, mon petit mur des lamentations qui grossissait là. Et puis bon, ben voilà, j'ai pas eu de réponse. Mais j'étais vraiment malheureux parce que je ne le cherchais pas, je ne le voulais pas, j'y aspirais pas. Voilà. Bon, j'ai dit, voilà, ben ma foi, c'était un cauchemar, c'était un mauvais rêve, et puis on fait avec, bref. Quelques temps plus tard, rebelote. Ah non, j'ai dit, ça, c'est pas possible. Je dis, c'est pas le Saint-Esprit qui m'envoie ses rêves, ou bien. C'est pas possible. Je dis, alors si c'est pas le Saint-Esprit, c'est qui? Hein? C'est l'ennemi, c'est le diable, c'est les démons. Et là, j'ai pris tout d'un coup conscience, enfin, la petite voix intérieure me dit, écoute Alain, maintenant c'est à toi de te mettre debout. C'est à toi de te lever et de signifier à ce monde spirituel qu'il n'a pas de droit dans ta vie. Alors je me suis mis debout spirituellement, mais à genoux physiquement, et j'ai pris conscience à ce moment-là que j'avais autorité sur ce monde-là, que je n'étais pas obligé de me laisser entraîner dans ces trucs complètement fous. Et je peux vous dire que ça fait effet. Ça m'a fait du bien parce que ben, j'ai vu que je n'étais pas tout d'un coup entraîné par une horde de démons en enfer, mais que ça ne m'est plus arrivé. Ce genre de rêve-là ne m'est plus arrivé. Simplement parce que je me suis mis debout et que j'ai mis en pratique la parole. Vous connaissez la fameuse histoire des sept fils de Séva, n'est-ce pas, qui étaient exorcistes juifs ambulants en Actes 19. Ils avaient vu l'apôtre Paul agir et libérer des gens possédés. C'était impressionnant ça, hein, en pleine rue, hein, pleine nature comme ça. Alors le gars, bien sûr, il pense que de pouvoir utiliser cette formule magique qu'utilise Paul en invoquant le nom de Jésus. Ah, bingo. 19:13, je vous exhorte au nom que Paul prêche. Je vous exhorte par Jésus que Paul prêche. Et l'esprit malin lui dit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous qui êtes-vous? Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, les maîtrisa et s'enfuirent nus et couverts de blessures. Ah, la deuxième question c'est, qui es-tu devant le monde spirituel qui fait des ravages dans les vies? Ça, c'est cet ouragan que vous avez vécu ici, c'est une réalité dans des millions de vies, parce qu'ils mettent les doigts dans la prise. Ils entrent en lien avec ce monde spirituel en rébellion contre Dieu. Ils ne savent pas comment s'en débarrasser. C'est plus fort que moi. On a eu des exemples ici, hein, vous rappelez, donc ce n'est pas nouveau. Donc, ce n'est pas une formule magique qui va changer la situation. C'est la présence de Jésus et ma prise de position personnelle qui s'élève en fait contre ce monde spirituel. Mais vous, qui êtes-vous? Qui es-tu ce matin dans le monde spirituel? Vous savez, en tant que pasteur, pendant plus de 40 ans, j'ai eu l'occasion souvent de partager sur ce thème, mais je pense que le 90% des chrétiens, ils ne veulent rien avoir à faire avec ce monde-là. Même en faisant des cauchemars une fois par mois. Je ne sais pas pourquoi, c'est bizarre, mais c'est prendre conscience maintenant que oui, tu as reçu l'autorité, tu n'as rien à craindre. Si au nom de Jésus-Christ, tu prends autorité sur ce monde-là, ce monde doit disparaître, doit s'en aller. Alors, voilà, es-tu connu pour être un enfant de Dieu? Un disciple de Jésus, vous savez, le monde spirituel nous connaît. Alors, les démons ne sont pas Dieu, ils ne peuvent pas lire nos pensées, mais ils nous connaissent dans nos limites, dans nos faiblesses, dans nos fragilités, et ils connaissent ceux qui appartiennent au Seigneur. Et là, ils font gaffe, je peux vous dire, à partir du moment où vous prenez autorité. Amen. J'ai fait de toi une ville fortifiée. Une colonne de fer, un mur de bronze. Troisième point, les maladies. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire. C'est quatre sujets, en fait, qui mériteraient voilà, un peu plus de temps, mais j'essaye de donner l'essentiel. Une chose est sûre, c'est que le désordre dans nos vies engendre toutes sortes de maladies. Ça, c'est une évidence, n'est-ce pas? Alors, c'est clair, il y a celles qui nous tombent dessus sans crier gare. Mais il y a celles qui sont provoquées par nos modes de vie dépravés, par nos excès en tout genre et par une mauvaise hygiène de vie. On ne tombe pas malade toujours par hasard. Ça ne nous tombe pas toujours dessus comme ça parce qu'on n'a rien fait. Et il est intéressant de constater qu'une mauvaise hygiène permet aux nombreux germes présents habituellement dans notre corps de se multiplier. Si vous avez une mauvaise hygiène, ce monde-là se multiplie. Alors, ils ne sont pas dangereux en temps normal, mais ils peuvent pénétrer dans le corps et causer des infections. Donc on peut tirer un parallèle avec le monde spirituel. Une mauvaise hygiène spirituelle permet aussi à ces esprits méchants d'accomplir leurs basses œuvres. Et il est dit qu'il y avait beaucoup de malades à Capharnaüm. Il y a beaucoup de malades dans notre société. Énorme. Quand on voit les primes maladies augmenter, ce n'est pas par hasard non plus, hein. Mais Jésus vient et il veut habiter cette réalité-là aussi. Jésus a porté nos souffrances et nos maladies. Alors, c'est vrai, là aussi, en tant que pasteur, j'étais souvent confronté à des maladies qui touchaient des chrétiens, des gens pourtant consacrés, des gens qui servaient le Seigneur de tout leur cœur. Et ils ont passé par des situations extrêmement difficiles. Leur foi a été mise à l'épreuve. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils n'ont pas fait face à cela seuls. Ésaïe 53, pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées et continue de porter. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et il continue de s'en charger. Il y a des miracles de guérison instantanée, mais force est de constater que tous ne sont pas guéris de leur maladie. Cependant, Jésus continue de les porter, de porter leurs souffrances, de porter leurs maladies. Paul Claudel a dit, Dieu n'est pas venu pour supprimer la souffrance, il n'est pas venu pour l'expliquer, il est venu le remplir, la remplir de sa présence. Et là aussi, en tant que pasteur, combien de fois j'ai été amené au chevet de gens qui étaient atteints de graves maladies, puis je me dis, mais peu cher, mais elle va bien. c'est incroyable, elle est portée, ou il est porté, c'est pas possible. Et on sentait vraiment cette présence du Seigneur qui soutenait ce frère ou cette sœur qui traversait ces moments tellement difficiles. Et des témoignages seraient nombreux à partager dans ce domaine. Donc, même dans la maladie, on peut rester dans l'ordre intérieurement. Moi, j'ai eu un moment de panique là, lundi, quand tout d'un coup j'ai eu tellement mal, ça me brûlait dans mon nez et tout. Et puis tout d'un coup, j'ai réussi à me calmer, à faire ce qui était à faire, c'est-à-dire trouver cette ventouse, et puis attraper au bon endroit ce verre de contact. Donc, on n'est pas obligé de paniquer parce que on passe par la maladie. La présence de Jésus peut être nettement plus forte que la souffrance présente. Dieu reste Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit, corps, âme et esprit. Amen. Alors on termine maintenant avec les autorités spirituelles. Ça, c'est aussi une chose très intéressante qui peut se produire dans notre vie. C'est intéressant de voir l'attitude de ces hommes religieux que Jésus rencontre dans Capharnaüm. En Marc 2, 6 et 7, il dit « Comment cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. » Donc ces hommes religieux disent « Il blasphème. Hein? Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» On voit que dès le début du ministère de Jésus, il a eu maille à partir avec les hommes religieux. Chaque fois qu'il est monté à Jérusalem, c'était la guéguerre, jusqu'à son arrestation, sa condamnation et sa crucifixion. Jésus a toujours respecté la loi et les commandements. Mais son but principal, en venant sur terre, était de redonner la vie zoé, c'est le mot zoé en grec qui signifie la vie telle que Dieu l'avait prévue au départ. Hein, quand un concepteur crée quelque chose, c'est parfait, en tout cas à son niveau. Hein. Mais quand Dieu crée la vie, donne la vie, c'est une vie parfaite. C'est le mot zoé qui est utilisé d'ailleurs dans nos Bibles. Hein. Et cette vie zoé, Jésus veut nous la redonner, c'est-à-dire qu'on puisse retrouver cette vie zoé en lui. Et pour ce faire, il va donner sa vie pour que nous puissions passer de la loi à la grâce. Ça, c'est un thème fondamental. C'est un thème fondamental parce que c'est un changement de paradigme absolu dans la vie d'un être humain. Toute notre existence, jusqu'au jour de notre conversion, on a vécu sous la loi. La loi des hommes, quand vous voyez la quantité de lois qui gèrent nos vies. Dans tout ce qu'on fait, il y a des lois. Il n'y a aucun endroit sur cette planète où vous avez une totale liberté de faire ce que vous avez envie de faire. Ou bien vous partez au fin fond de l'Alaska, et puis voilà, avec les ours, je ne sais pas qui. Ouais. Et accepter de vivre dans la grâce n'est pas une chose aisée. J'aimerais que vous l'entendiez ce matin. Ce n'est pas naturel de vivre dans la grâce. C'est un profond changement. Parce qu'il y a toujours un scribe ou un pharisien qui sommeille au-dedans de nous. Et chez certains, ils font juste des turbo-siestes. Siestes. Ah, ils se réveillent vite, hein. Vous êtes dans les églises, il y a souvent des gens qui, tout d'un coup, pour une raison ou une autre, je vous partagerai une anecdote aussi à ce sujet, mais tout d'un coup, ça se réveille, on ne sait pas pourquoi. Et ils veulent remettre les gens sous la loi, alors qu'ils viennent d'entrer dans ce monde de la grâce. Mais on a tous cette propension naturelle à nous réfugier dans la loi. Tous, naturellement. Parce que la loi, elle est sécurisante. Elle dit clairement ce qui est juste ou ce qui est faux, ce qui est bien ou ce qui est mal, ce qui est blanc ou ce qui est noir. Toute l'épître aux Galates nous parle de ça. La loi ou la grâce? Le combat que ces gens ont dû vivre à l'intérieur, passer de la loi à la grâce. Et je vais vous dire ce matin, la grâce est un terrain très spécial. C'est une terre sainte. C'est un terrain saint où il faut enlever nos grosses godasses quand on y entre. Et y entrer avec beaucoup d'humilité, déjà envers soi-même, envers les autres, parce que la grâce demande du temps, elle a besoin de temps pour faire son œuvre. Quand je voyais certaines personnes entrer dans ce lieu, je me disais, c'est déjà un miracle qu'elles entrent dans ce lieu. Et puis, c'est clair que des gens qui arrivent et puis qui ne sont pas vraiment... je dirais dans les clous, on se dit, on a tout de suite des préjugés, on a tout de suite des pensées à leur égard, mais ils nous désécurisent ces gens quand ils entrent dans l'église. Mais l'église, elle est faite pour ça. Elle est faite pour être désécurisée, pour que cette grâce qui coule du cœur de Dieu puisse être transférée chez ces gens. Et je me souviens de Sylvie Guenot qui était là tout au fond, le premier culte où elle a participé, qui s'est avancée comme une vieille grand-maman arrivée là pour prendre la Sainte Seine, me dit, mais Seigneur, mais comment on va s'en tirer avec elle? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Mais la grâce de Dieu était là. Vivre par et dans la grâce de Dieu demande beaucoup d'humilité. La loi, elle n'attend pas. Elle tranche. Paf! Elle fait la différence. Elle tranche dans le vif. Elle ne laisse aucune marge de manœuvre. C'est 50 à l'heure, pas 55. Allez, hop, 60 balles d'amende. Alors pour vous dire comment ça peut se passer dans une église et dans le cœur de gens qui apparemment sont bien disposés, me voilà à Fribourg, jeune pasteur, pas de conseil, quelques personnes au culte, puis voilà deux couples qui arrivent, coup sur coup, magnifique, un professeur à l'EPFL, l'autre prof à Outrive, à l'école d'agriculture, tout ça. Oh voilà, des gars solides. Oh, alors, je n'ai pas fait un conseil tout de suite, mais j'ai dit que ça serait sympa. Moi, j'avais besoin de partager avec d'autres hommes, et voilà, bref. Alors, ils viennent. Une année ou deux ans plus tard, et voilà qu'ils partent pour un week-end. Un week-end dans une communauté en France. Ils reviennent, convoquent le conseil, entre guillemets, et nous disent... Alors écoutez, voilà, on est parti, on a vécu ci, on a vécu ça, etc. Et on aimerait qu'à partir de la semaine prochaine, on prenne la Sainte Seine avec les vrais disciples. Ouf. Oh là, la tempête. l'ouragan, le tsunami. Qu'est-ce qui se passe? Prendre la Sainte Seine avec qui? Les vrais disciples. Pas les disciples, les vrais disciples. Ah, vous voyez ce qui me tombe dessus, moi, quand je vais faire le tri à l'entrée. T'es un vrai disciple, t'es pas un vrai disciple. Toi, oui, à cette semaine, t'as été un vrai disciple, la semaine passée, pas. Voilà, c'est le chaos qui s'installe. Et là, pendant une année, par la grâce de Dieu, on a cheminé avec un autre frère qui, lui, était équilibré et bienfaisant. On n'a pas réussi à changer le cours de cette situation. Et ces familles sont parties. Mais voyez, en un instant, en une seconde, comme ici à la Chaux-de-Fonds, ça peut vous traverser... Et ça peut vous détruire une église ou une vie de pasteur ou autre. Donc je termine. Jésus allait de lieu en lieu, de ville en ville, de vie en vie. Et j'aimerais que vous puissiez prendre conscience ce matin. Vous êtes comme une petite ville de Capernaum, hein, avec tout ce qui s'y passe. Mais Jésus passe dans votre vie en faisant le bien, en délivrant, en remettant de l'ordre dans le désordre et les choses dans leur bon sens. Il veut faire de ma synagogue, de mon cœur, un lieu de vie paisible et équilibré. Il veut me donner autorité sur le monde spirituel en rébellion contre Dieu. Il veut me guérir de mes maladies ou porter ces maladies avec moi ou les supporter. Et il veut me donner de vivre dans la grâce, par la grâce, libre à l'égard de la loi. Aujourd'hui, je fais de toi une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain. Amen. Seigneur, on est ébahi de voir tout ce que tu es capable de faire. Souvent, on en reste au salut. J'ai été sauvé. Et puis, on voit que tu es prêt à entrer dans chacune de nos vies et accomplir une œuvre divine, une œuvre éternelle, une œuvre qui aura des conséquences dans l'éternité et déjà ici-bas. Et Seigneur, on a vu cette ville de Chaux-de-Fonds être secouée en quelques minutes. Ces millions de dégâts, ces vies qui ont cessé, tout ce matériel. Seigneur, peut-être que ce matin, aujourd'hui, au milieu de nous, quelqu'un est dans cet état, quelqu'un est en danger de mort, quelqu'un est dans le désordre, dans le chaos. Mais en ton nom, Seigneur, je te prie vraiment de le visiter, de visiter cette personne et de la ramener à cette vie Zoé, à cette vie de... en Dieu, en cette vie, dans cette vie éternelle que tu nous offres dans ta grâce. Seigneur, merci de nous bénir chacun en toi, dans la gloire de ton nom. Amen.